Deux invités, une obsession et un événement littéraire. Yvan Mignot traduit Le roi du temps, le président du globe terrestre, le grand futurien russe Vladimir Klebnikov. Et le poète Jean-Baptiste Parrain, en lecteur admiratif du même Klebnikov, traduit l'un de ses héritiers, le poète soviétique Nikolaï Zabolotsky.
Poésie et ainsi de suite, par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Yvan Mignot, Jean-Baptiste Parra, bonjour, bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Jean-Baptiste Parra, poète, on vous doit également avec André Velter 10 ans de poésie sur parole hein, sur l'antenne de France Culture, ici même. Poète donc, critique d'art et traducteur de l'italien principalement, mais aussi du russe. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue Europe, qui consacrait il y a 7 ans maintenant un très précieux numéro au poète russe, rangé sans doute un peu vite au rayon futuriste, Vladimir Klebnikov. Enfant des steppes, né en 1885, mort en vagabond, épuisé par la gangrène et l'errance en 1922, à l'âge de 37 ans. C'est votre admiration immense pour lui qui vous a conduit à un autre de ses fervents lecteurs, le poète soviétique Nikolaï Zabolotsky, représentant, dites-vous, des derniers feux de l'avant-garde russe, que vous traduisez et présentez sous le titre du Loup toqué aux éditions La Rumeur Libre. Yvan Mignot, Klebnikov vous accompagne depuis presque 50 ans maintenant, on peut le dire. Vous l'avez traduit par tous les bouts, prose, poésie, essais, fragments, journaux, par petits bouts, régulièrement, obstinément, de revue en revue, depuis 1970, hein, une première traduction parue dans la revue Poétique, par l'intermédiaire de Tsvetan Todorov. De quoi s'agissait-il d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il fallait commencer par publier? Quelle est la toute première chose que vous ayez traduite?
Je connaissais bien Tsvetan. Je l'ai connu quand, un peu après son arrivée à Paris. Il était dans un hôtel de rue de Seine où avait vécu Baudelaire, hôtel que je n'ai pas retrouvé, parce que tout a changé. Et évidemment, comme il venait de Bulgarie, il était passé par Moscou, il connaissait les formalistes, il connaissait ce qu'on appelle, le mot me plaît pas, je pourrais expliquer pourquoi, les futuristes. Et donc il m'a demandé de traduire ce qu'on peut appeler des fictions théoriques de Klebnikov, essentiellement des textes qui ne sont pas de la poésie et qui ne sont pas de la prose. Enfin, c'est de la prose, mais articulée autour des lettres. Pour être plus exact, autour des phonèmes, puisqu'il a passé un bon moment de sa vie à sémantiser les phonèmes. C'est-à-dire, il prend des lettres et il les dispose dans l'espace et il les fait bouger. Alors il définit le L, par exemple, c'est le L de l'amour. Donc moi j'ai traduit le la l'amour parce qu'il me faut un L en français. Et le L, il correspond, parce qu'il a fait des études de mathématiques à Kazan, il correspond chez Lorentz, à la formule de Lorentz, donc c'est un corps qui s'aplatit comme ça, et ça donne la forme du L en russe.
Ce qui n'est pas la moindre des complications quand on tente de traduire Klebnikov. 47 ans après, donc, paraît aux éditions Verdier, œuvre de Klebnikov qui s'en tiennent aux années 1919-1922. Des poèmes, parfois dialogués, des contes, des proses, lettres, notes. Et ce sont les quatre dernières années, années d'errance. Hein, la Caspienne, la Perse, le Daghestan, l'Azerbaïdjan, Bakou, Kharkov. Alors, théâtre fiévreux de la guerre civile. Quatre années de vagabondage. Quelques petits boulots quand même. Un séjour de quelques semaines à l'abri en hôpital psychiatrique. Quatre années et une légende, peut-être. Celle d'un poète en marche et en écriture permanente, avec pour tout bien une taie d'oreiller en guise de valise contenant ses manuscrits. Hein. On appelle ça d'ailleurs un peu la période de la taie d'oreiller. Pourquoi s'en tenir à ces quatre années-là? Pourquoi commencer par la fin? Même si on connaît le goût du palindrome chez Klebnikov.
Ouais. J'ai commencé par la fin parce que Klebnikov est mûr dans ses pensées, dans son écriture. Et aussi parce que ça vient après 17. Et qu'après octobre 17, bon, il y a la prise de pouvoir par les bolcheviks et on élimine au fur et à mesure les compagnons de route de la révolution, les anarchistes, les SR de droite et puis de gauche, etc. Et puis il y a la guerre civile et en 19, au printemps, Klebnikov part pour l'Ukraine, c'est-à-dire pour le midi chez nous, retrouver les oiseaux, le printemps.
Parce que c'est le printemps, hein. C'est ce qu'il dit à Mayakovsky.
C'est ce qu'il dit à Mayakovsky, parce que c'est le printemps. Et là, il a encore une petite valise. selon le témoignage de Maïakovski. Après, il y a tout ce mythe...
De la thé d'oreiller.
Ouais, de la thé d'oreiller. La thé d'oreiller, c'est pas histoire de, c'est la nécessité. Klemnikov, aujourd'hui, ça s'appellerait un SDF. Sauf que, bon, il sait faire qu'une chose, en fait, il est assez maladroit dans la vie quotidienne, mais ce qu'il sait faire, c'est écrire en vers et bousculer... je dirais le vers classique russe, à savoir le yambe, de la même manière qu'ici, des gens comme Mallarmé, Corbière et quelques autres, Rimbaud aussi, ont bousculé l'alexandrin.
Voilà. Mallarmé dont il a été lecteur ?
Oui, il a été lecteur parce qu'il a lu une anthologie qui s'appelle « Poète d'aujourd'hui », je crois, de Léoto et Van Bever. Et là-dedans, il y a tous les Français. En particulier, il y a de Mallarmé une dentelle s'abolit dans le doute du jeu suprême, que Jacobson a traduit pas très bien, en ce sens que ça pose problème. Une dentelle en russe, ça s'emploie pas au singulier. Et il a traduit ça, poésie russe symboliste, on va dire, très régulière. Moi, j'ai une hypothèse comme ça, qui n'est pas confirmée, mais je pense qu'elle est juste. Klemnikov l'a traduit, mais il l'a traduit phoniquement, et ça donne « baberobi pielis gubre », c'est-à-dire le mouvement des lèvres qui correspond au bibelot dont Mallarmé était fan.
Voilà. Commencer par la fin, Yvon Mignot. Est-ce que c'était aussi commencer par sortir Klemnikov de là où on le range traditionnellement? C'est-à-dire, si tant est qu'on le range d'ailleurs, c'est-à-dire aux côtés des futuristes, c'est-à-dire aux côtés du bouillonnement des années 10 à Saint-Pétersbourg, à la suite des symbolistes, puis des acméistes, des Brick et autres, Maïakovski, puis Mandelstam, etc. Klemnikov, ça n'est pas le poète d'une génération, pour vous?
Ah, je dirais pas ça. Enfin, c'est une question compliquée. Je vais commencer par le futurisme. Alors, futurisme, c'est très pratique.
C'est un terme qu'il n'a jamais utilisé.
Ah non, il n'a jamais utilisé ce mot-là. Il a utilisé Boudiklianin. Alors, vous avez parlé de futurien, ça, si je ne m'abuse, c'est la traduction de Lannes. Je n'y objecte
Jean-Claude
pas,
Lannes.
Simplement, oui. Moi, je pense que dans Boudiklianin, il n'y a pas seulement le futur du verbe être, parce que vous avez mentionné sa naissance dans la steppe kalmouk. Il a joué petit avec des petits kalmouks. Il a peut-être entendu les chants diphoniques. En tout cas, il a vu les temples lamaïstes, etc., etc. Et donc, puisque les kalmouks sont le seul peuple bouddhiste lamaïste d'Europe, il y a Bouddha là-dedans, puisque c'est l'éveillé, par définition. Donc, moi, j'ai fait quelque chose comme ça, une traduction un peu tirée, quoi. J'ai fait les éveilleurs tirés, dad tirés venir. Parce que il a inventé un, pour
en,
lui.
En lieu et place de futuriste.
De futuriste, non.
Futuriste, non.
En lieu et place de futurien qui me satisfait pas. Pour une raison à l'oreille.
Il y a aveniriste parce, aussi, ou avenir rien. Enfin, on a tout essayé.
Non, mais tout ça, east, tout ça, ça ne correspond pas à la morphologie de la langue russe. Il invente des mots, mais, il faut souligner que ces mots sont des possibles de la langue. Ça veut dire que ils ne violent pas les règles de la langue.
Russe. Hein?
Russe, bien sûr. Puisqu'il pose qu'il n'existe qu'une langue, la russe. Axiome de base. Donc, les mots étrangers, ça veut dire qu'il les utilise pas. Bien sûr, les mots savants, il les utilise. Les mots de la science. Mais, essentiellement, à partir du russe. Et en s'appuyant, me semble-t-il, en tout cas, dans les débuts, mais il y en a des traces dans le volume, c'est-à-dire dans les dernières années, en s'appuyant sur un archaïsme, c'est-à-dire la langue vieux russe. Et en particulier, je pense quelque part, ce qu'on appelle en français le dit de l'ost d'Igor, qui est, en russe, ça se dit slova le dit. Or, slova veut dire le mot. Et alors, en langage biblique, bien sûr, c'est le verbe.
Qui serait l'un des premiers textes, faut peut-être dire ce que c'est.
C'est le premier texte en poésie et en vers libre. Hein, c'est du Moyen-Âge, ça date, ça. Et donc, je pense qu'il s'appuie là-dessus, parce que quand on regarde les essais, il fait une espèce de variation, comme un musicien qui ferait ses gammes, à partir d'un mot. Par exemple, il prend le verbe « lubit », donc il enlève la terminaison, ça fait la racine « lub », donc « aimer ». Et à partir de là, il fabrique des mots que la langue pourrait fabriquer. Ça vient pas d'une fantaisie comme ça, ça le prendrait comme coup de chouanir de faire Der Bullschuh, que évidemment on a interprété, mais ça n'a pas de sens. Mais
Jean-Baptiste Parra qui piaffe, qui aimerait, je crois, qui aimerait intervenir. Bah,
je peux juste préciser quelque chose pour que les auditeurs ne soient pas complètement perdus.
Oui, ce qui ne va pas tarder.
Dans cette affaire, je pense qu'il y a en partie une histoire de la réception en France, disons, de ces mouvements, de ces poètes. C'est-à-dire, pendant longtemps, on appelait futuristes, aussi bien les futuristes italiens que les futuristes russes, n'est-ce pas? Le mot futuristi existe à cette époque en Russie, ça apparaît dans des titres d'ouvrages, et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marinetti fait un voyage là-bas. Khlemnikov, lui, est quelqu'un qu'on pourrait dire, sur ce plan-là, d'assez slavophile. Et il voudrait que les mots qui sont employés ne soient pas empruntés à des langues occidentales. Et donc, il lui revient de forger un mot à partir de racines russes. Et donc, c'est, comme l'a rappelé Yvan Mignot, Budietlanin. Il n'en reste pas moins que ce à quoi il faut peut-être s'attacher, c'est à l'idée des énergies du futur qu'il essaye, disons, d'appeler dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que ce qui est tout à fait fondamental chez Khlemnikov, c'est qu'il charge tout ce qu'il fait des énergies archaïques, c'est-à-dire des choses, des énergies du plus loin du temps et de tout ce qui remonte à des peuples vivant autrefois dans l'Empire russe, là en Union soviétique, y compris des peuples sans écriture. Toute cette puissance, cette fraîcheur de l'archaïque, il l'accueille. Mais il accueille aussi les énergies de l'avenir, du futur. Et c'est au croisement de ces énergies, je pense, que se situe son œuvre.
Alors justement, Yvan Mignot, vous l'évoquiez à l'instant, un petit retour aux sources ou à la source. Un chant kalmouk interprété par Sambrine Urmtola, pardon pour la prononciation, je n'en suis pas très sûre. Donc les kalmouks que vous avez évoqués, hein, Yvan Mignot, descendant de Mongols, installé dans la région du delta de la Volga, près d'Astrakhan, justement en Russie. Et c'est dans ces steppes-là que naît Viktor Vladimirovitch Khlemnikov, hein, pour dire son nom en entier, en 1885, fils d'un ornithologue et d'une historienne de formation. Au fond, qu'est-ce que l'œuvre de Khlemnikov et sa quête d'une langue nouvelle, puisque en fait c'est bien de ça qu'il est question, d'une langue nouvelle russe et universelle, cette chose étrange, qu'est-ce qu'elle devrait au fond à cette matrice-là, à cette matrice des steppes?
Il doit aux steppes un œil. C'est-à-dire que Trinianov le notait dans ce texte qui ouvre les œuvres de 28-33, il disait que Khlemnikov regarde les choses au même niveau. C'est-à-dire, ni d'en haut, c'est pas la transcendance, ni d'en dessous. C'est-à-dire que c'est ni maître, ni esclave, c'est au même niveau, avec sans doute Peut-être, parce que j'avais lu quelque part, mais je n'ai pas retrouvé, quelqu'un qui disait que, je crois que c'est Rita Wright, qui disait qu'il avait une pratique, disons, du chan, c'est-à-dire ce qui donne au Japon le zen. C'est pas impossible. En tout cas, il regarde les choses, si on lit les textes, il y a des textes quand même qui sont assez durs, hein, les textes de la guerre civile, avec, et il regarde ça très calmement, comme s'il ne prenait pas position, mais le verre est agencé de telle manière qu'il nous interpelle et que c'est nous qui allons prendre position. Pour vous donner une idée, c'est pas du tout Maïakovski, hein. Maïakovski, il est bolchevique, il le cache pas. Ses œuvres sont sa carte du parti, il le dit. Et Maïakovski, ben, il s'inscrit dans la doxa, dans la vulgate, bolchevique. Hein. Donc c'est pas du tout la même approche. Alors ce qu'il doit à la steppe, moi je crois que c'est ça. Il doit ce regard, cette espèce de sérénité, en tout cas intérieure. Et puis surtout, je crois, il parle à partir du silence. Parce que dans la steppe, j'y suis pas allé, mais je peux imaginer facilement, on entend les oiseaux, on entend le vent, on entend les arbres bruire et tout ça. En ville, non. Et c'est pas un citadin. Même s'il a vécu à Kazan, mais Kazan, c'est déjà l'Orient. En fait, c'est un homme du Midi. C'est un homme de la province. Et donc, je crois qu'il
doit quelque chose d'autre et de très fondamental à la steppe. C'est ce que j'appellerais le goût de l'itinérance et du nomadisme. Les Kalmouks sont en quelque sorte des nomades sédentarisés. Mais la steppe, c'est immense, c'est infini. Et ça invite au déplacement. C'est tout à fait fondamental, à mon avis, pour Khlebnikov. Parce que d'abord, c'est aussi un grand utopiste. Et comment est-ce qu'il imagine la ville du futur? D'abord, parenthèse, il considère que le nouveau pouvoir révolutionnaire doit accorder des billets de train gratuits aux poètes. Parce que les poètes doivent pouvoir circuler. Un poète, ça circule. Un poète, ça ne reste pas en place, à demeure, dans une ville. Un poète circule. Il invente un pays imaginaire qui est le Poutestan. Le Poutestan, ça veut dire le pays des voies, le pays des chemins, c'est-à-dire le pays de la circulation. Troisièmement, comment imagine-t-il la ville du futur? Eh bien, en fait, il imagine que les bâtiments seraient comme des sortes d'arbres où pourraient venir se loger des appartements mobiles et volants en verre. C'est-à-dire que vous êtes dans l'itinérance et la ville est un endroit où vous pouvez venir accrocher votre appartement mobile à ces sortes de, disons, d'arbres.
Alors en 21, il écrit à Maïakovski, décidément on en parle beaucoup, on en reparlera aussi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment choisir son camp, hein, entre Maïakovski et Khlebnikov.
Oh, ils sont bien tous les deux.
En 21...
Ils s'estimaient quand même, même s'il y avait des différences.
Bien sûr. Oui. Donc il lui écrit « Je pense écrire une chose dans laquelle toute l'humanité, 3 milliards, participerait et où elle serait obligée de jouer, mais la langue habituelle ne convient pas pour la chose, il va falloir pas à pas en créer une nouvelle. Hein. » Autrement dit, créer une nouvelle langue qui au fond n'arrivera pas, hein, parce que c'est aussi l'histoire d'un échec merveilleux, comme vous dites, mais l'histoire d'un échec, Khlebnikov. La langue habituelle ne convient pas. Il faut donc commencer, je ne sais pas, par s'en débarrasser. Qu'est-ce que Khlebnikov va faire à la langue habituelle, hein, Yvan Mignot?
C'est le problème de la révolution. Une révolution, la française a trouvé le mot, puisque c'est le mot même de révolution. Et les bolcheviks n'ont pas trouvé le mot. Soviet existait avant eux. Donc il s'agit de créer quoi? Il s'agit de créer une langue qui soit adéquate à cette rupture quand même rude qui s'appelle une révolution. Surtout que en Russie, vous avez 14-18, mais ça continue, disons, jusqu'en 21 à peu près, hein, la guerre civile. Et donc, il faut créer une langue. Mais c'est pas un projet nouveau chez lui. Il s'est toujours intéressé à à créer des mots, parce qu'il y a des mots qui ne conviennent pas. Pourquoi ? Ben parce que ils conviennent quand on dit « passe-moi le sel ». À partir de là, on établit une théorie de la langue qui est la langue est un outil qui sert à communiquer. Ce qui est complètement idiot, bien évidemment. On communique pas, puisque la langue, par définition, elle est ambiguë. Deux françaises, c'est quoi ? Deux femmes françaises ou deux francs 16 centimes. Donc déjà, dans la profération, il y a ambiguïté. Alors évidemment, les poètes, ils jouent avec ça. Ils jouent, mais Klemnikov, il joue pas, je trouve. Il a de l'humour, certes, mais à l'époque, rares sont les gens qui comprenaient ce type d'humour. Il n'est pas ironique, hein, son attitude envers la révolution. Il est de ceux qui désirent une révolution, parce que il a déjà prévu la chute d'un État pour 1917, il a prévu ça en 1912. Donc il faut trouver une langue qui corresponde à ce que c'est la révolution, si tant est qu'on pose que la révolution d'octobre est une révolution. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait pas comme ça. Quand ils ont fait ça, on employait le mot perevarot, qui sert à désigner un coup d'État. Hein, donc un renversement de pouvoir. C'était perçu comme ça. Toujours est-il qu'il s'aperçoit très tôt que ça ne va pas, que c'est pas ce qu'on attendait. Alors, vous verrez, il y a par exemple un long poème qui s'appelle « Perquisition la nuit ». Qu'est-ce que ça raconte ? Ce sont les marins de la Baltique, c'est-à-dire le fer de lance de la Révolution, qui font une perquisition la nuit. Ils flinguent quelqu'un qu'ils considèrent comme un blanc. Alors, ils passent le piano par la fenêtre, enfin bon, c'est le pillage. Et à la fin, la vieille dame, la mère, elle a mis le feu. Et la conclusion, c'est quoi, des marins ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Périr dans les flammes ou se suicider ? Ça parle de révolution.
Jean-Baptiste Parrin.
Alors, pour essayer de tisser ensemble quelques-uns des fils là qui ont été évoqués, je veux dire quelques mots de ce qu'on appelle les tables du destin.
Qu'Yvan Mignot évoquait à l'instant.
Voilà. Et pour les relier tout ça avec l'inscription de Klemnikov dans le moment du processus révolutionnaire, de la terrible guerre civile, et ainsi de suite. Les tables du destin, c'est quelque chose dont il a eu l'idée assez tôt. En quoi ça consiste ? Grosso modo, c'est par des calculs mathématiques, essayer de comprendre en quelque sorte les récurrences d'événements dans l'histoire, de manière à pouvoir entrevoir l'avenir et surtout les zones dangereuses de l'avenir. Les zones dangereuses, c'est-à-dire par exemple les guerres. Ce qui lui a donné l'idée, en fait, c'est la grande défaite russe, la bataille navale de Tsushima, où toute la flotte russe en Extrême-Orient a été anéantie au moment de la guerre russo-japonaise. Et il dit plus tard, j'ai voulu trouver une justification aux morts. C'est-à-dire qu'à partir de cet événement historique tragique, il a voulu comprendre, voilà. C'est pas pour jouer les voyantes, c'est pas pour faire Madame Irma. Qu'est-ce qu'il dit ? Il compare ça à la Volga. Il dit, autrefois, le cours de la Volga, on ne savait pas où étaient les écueils, les bancs de sable, etc. Des bateaux pouvaient s'échouer. Aujourd'hui, on a balisé cela, et la navigation sur la Volga est sûre. Bien. Donc, il s'agit de rendre une sorte d'assurance et de paix à ce qu'il appelle la destino-navigation humaine. S'il arrive à calculer l'imminence d'une nouvelle guerre, qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là ? C'est génial. Il dit on peut pas l'éviter. Mais en revanche, on va la jouer en théâtre. C'est-à-dire, on va la désamorcer en la jouant au théâtre. Il a la même idée, par exemple. Il s'oppose à la peine de mort. Alors évidemment, voilà quelqu'un qui est absolument opposé à la peine de mort et qui est en pleine guerre civile où des morts, il y en a de tous les côtés. Il veut tirer parti de l'invention du cinéma pour infliger les châtiments. C'est-à-dire...
S'il vous plaît, oui. C'est-à-dire...
Oui. Eh ben, je vais vous dire. Il dit, jusqu'à présent, quelqu'un qui est arrêté pour tel ou tel méfait, tel ou tel crime, on le soumet à tel ou tel châtiment, qu'il doit endurer dans son esprit et dans sa chair. Il a remarqué qu'au cinéma, on éprouvait des émotions en voyant ce qui se passait sur l'écran. Et donc, en fait, le condamné, dans le futur, on le fera asseoir dans une salle obscure et on représentera sur l'écran son châtiment. Et donc, par cette communication, j'irais, d'émotion, il endurera sa peine comme ça. Donc il s'agit en fait, l'un de ses soucis profonds, c'est de désamorcer la violence, en vérité. Et c'est en ce sens-là aussi que ça fait, enfin tout ça fait partie de son, de sa dimension utopiste, tout à fait magnifique.
Alors on revient peut-être à cette question de la langue chez Khlebnikov, on pourrait même revenir à la question du mot, vous avez parlé de la lettre tout à l'heure Yvan ouais. Mignot, ouais. Mais le mot c'est aussi une architecture cruciale dans le projet de Khlebnikov. Et puis parmi ces langues nouvelles, alors là c'est peut-être un petit retour en arrière, mais c'est vrai que ici en tout cas en France, pour des tas de raisons et parfois pour des mauvaises raisons, on s'est beaucoup attardé sur Zaoum, lié à Khlebnikov. Là je vois que ça vous énerve déjà, enfin en tout cas vous froncez le sourcil. Qui pose une question de traduction, hein, Zaoum, qu'on a traduit de mille façons, qu'on a traduit transmental, transrationnel, que vous traduisez par outre-âme, dans votre traduction chez, chez Verdier. Oui. Qu'est-ce que ce problème de traduction, alors peut-être déjà nous expliquer ce que c'est que Zaoum, et puis qu'est-ce que ce problème de traduction et la solution que vous propose dit de ce qu'est justement Zaoum?
D'abord en russe c'est féminin, donc il faudrait dire en bon français la langue Zaoum, il y a un signe mou à la fin. Si on décompose le vocable, ça nous donne za, au-delà, ou trans, et oum, qui est un mot embêtant. Parce que c'est l'esprit, l'intelligence. Fou en russe, ça se dit sumashechi, c'est-à-dire tomber de l'esprit. Il est tombé, il a perdu l'esprit, on dit en français. Bon, alors, le zaoumiste numéro un, c'est Khrouchtchomer. Bon, Khrouchtchenik en français. Alors, là, il y en a plein.
Qu'est-ce que c'est qu'être zaoumiste?
Eh bien, c'est fabriquer des structures de langues qui ne sont pas attestées dans la langue et qui, morphologiquement parlant, quand vous formez les mots, sont plutôt bizarres. Vous avez un peu ça chez Artaud, sauf que chez Artaud, c'est... ça vient de là. Tandis que là, on a l'impression que c'est un peu un jeu formel. Alors, le zaoum, c'est le côté obscur de la langue, puisque ça n'a pas de sens, les ça a du sens, bien sûr, mais les significations sont flottantes. Donc, ça fait un peu comme des mots-valises, etc. Sauf qu'il dit que le zaoum, on peut le transformer en langue claire, et réciproquement.
Jean-Baptiste Parrin.
Il a échangé, si je ne me trompe, à ce propos avec Roman Jakobson. Ils étaient tous deux très très jeunes. Et je sais qu'ils étaient l'un et l'autre sensibles à ce que Khlebnikov appelle la langue des charmes. Par exemple, pour prendre un exemple en français, ça serait Amstramgram, Piqué-Pique et Collégram. C'est-à-dire des formules qui ne sont pas nécessairement au départ porteuses de sens, mais qui, c'est moins une langue qui dit qu'une langue qui fait, donc qui agit. Je crois que ça, c'est pour expliquer peut-être un peu l'une des racines de ça, de sa quête. L'autre idée, je ne sais pas si Yvan Mignot pourra la préciser, c'est qu'il a aussi l'idée d'une langue qui aurait comme une sorte de valeur universelle, une sorte de presque de surlangue qui aurait une valeur universelle dont il aurait révélé lui, c'est ce que Yvan Mignot expliquait tout à l'heure à propos de la lettre L, donc où il verrait des dénominateurs communs à un certain nombre de lettres ou d'embryons de phonèmes, et à partir de là, on pourrait considérer que ça a une valeur universelle. Tout ça fait partie de tout le versant d'utopie qui s'attache à son chemin.
Yvan Mignot.
Son histoire de langue universelle, il connaissait bien sûr la langue, l'espéranto, et il trouvait que justement c'est au niveau des flottements de signification, des ambiguïtés, c'était trop précis. En fait, sa langue universelle, elle reste, évidemment. Il n'était pas, je pense, naïf au point de croire que une langue de poésie, c'est une langue de poésie, sa langue, qu'il appelle pas de... Enfin, le projet est universel, mais il entre dans le projet, disons, encyclopédique. Khlebnikov est un des rares poètes dont on peut dire qu'il a un programme de recherche, comme il y a eu un programme de recherche structuraliste. Cette langue, qu'il appelle la langue stellaire, la langue des étoiles. C'est de la géométrie dans l'espace. C'est cinétique. À chaque fois, c'est des trajectoires, c'est avec des inverses, des lettres qui se rencontrent. Et surtout, c'est très net dans Zanghezi. K, c'est la lettre de la mort. Or, il remarque que les chefs de la contre-révolution, les Blancs, ça commence par K, Kolchak, Kaledin, etc. Mais que la bataille, elle est là-haut. C'est une bataille entre les lettres, entre K, R, L, etc. Ce qui est quand même assez fabuleux. Parce que, bien sûr, on peut dire utopie, mais c'est dans l'écriture elle-même. C'est dans le poème lui-même. Et je ne fais pas le pas que fait Jean-Baptiste Parra. C'est-à-dire, je vais pas dans, je reste un peu en retrait. Et donc, je reste dans la rêve.
Après, il faut s'entendre sur le mot utopie.
Oui, bien sûr. Mais
par exemple, moi, il y a une phrase que je trouve magnifique chez lui. Il dit « Les battements de cœur seront l'unité monétaire du futur. »
Oui.
Bon, il est évident que c'est pas un programme politique à réaliser. C'est pas une utopie dans le sens où voilà ce qu'il faut faire, les battements de cœur, faut que ça devienne l'unité monétaire du futur. Sauf que, à partir du moment où on pose une telle phrase, le rapport au monde change. C'est ça. C'est dans ce sens-là que j'entends utopie.
D'accord.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite, par Manu Farine.
Un petit mot, Yvan Mignot, parce que le temps passe. Traduire Klemnikov, donc, c'est traduire une langue rigoureuse, hein, bien plus rigoureuse qu'on l'imagine, après tout ce qu'on vient d'entendre, ou malgré tout ce qu'on vient d'entendre, avec ses rigueurs métriques, mais qui n'en finit pas de glisser, de sauter, de néologiser, justement, de fusionner les langues, les dialectes, les géographies, les registres. C'est traduire une langue aussi qui tient compte de l'image, du son, des phonèmes, de la lettre, du tracé des lettres, hein, puisque l'espace résonne à travers l'alphabet. Ce qui, j'imagine, complique considérablement la traduction, est-ce qu'on lit Klemnikov lorsqu'on le lit en français ?
Écoutez, ça, c'est pas à moi de le dire. Hein. J'en sais rien.
Un petit peu quand même.
Non, moi, j'ai eu des problèmes comme ça. Jacobson appelait ça le niveau liminal, c'est-à-dire le niveau des sons. Je vais donner un exemple. Dans Zanghezi, évidemment, il faut le savoir, il faut connaître le mantra Aum, hein, bon, qui est un, ça fait résonner tout l'univers, hein, bon, dans la tradition indienne. Donc, vous avez une équation. Alors, il met des préfixes, donc devant, derrière, en haut, en bas, etc., avec le mot intelligence. Vous pouvez rien faire avec intelligence. C'est trop long. Ça fait bom, om, tom. Qu'est-ce que ça fait? Ça vibre. C'est le son des cloches. Alors là, ça nous renvoie, enfin, je vais pas partir, mais ça nous renvoie au Nabat, ça nous renvoie au poseur de bombes, etc., qu'il connaissait bien par sa mère. Mais pour en rester à ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai posé une espèce d'équation de langue. J'ai des termes très brefs en français, en russe. Quels sont les mots en français qui feraient l'affaire? Mais il n'y en a pas 36, c'est « homme » et « âme ». Donc, ma cheville va être « âme ». Et alors après, je vais voir Deleuze parlant de Spinoza et j'ai mon soutien philosophique pour esprit.
À vous entendre, justement, je me demandais, Yvan Mignot, 50 ans de fréquentation de Klemnikov, pas exclusive, mais presque. En tout cas, il est présent tout le temps, régulièrement. Qu'est-ce que cette fréquentation-là, ce mode de fréquentation-là, pourrait bien dire de vous ?
Grâce à lui, je suis allé voir Spinoza, puisqu'il a lu l'éthique d'une manière palindromique, d'ailleurs. Donc ça, je le développerai dans... Je ferai un essai quand même. Donc j'ai lu Deleuze, j'ai lu les philosophes, j'ai lu l'histoire de... Et d'autres poètes, évidemment. Mayakovsky, j'ai les 13 tomes, il y a longtemps que je l'ai lu. Donc j'ai une idée de Mayakovsky. Je l'aime bien, Mayakovsky.
Ça s'est fait sans dispute, ces 50 années avec Klemnikov ?
Non. Avec des gens peut-être, mais pas... Comment vous voulez disputer avec un spectre ? Qui est présent, c'est impossible.
Avec une langue, en tout cas.
Enfin, c'est pas le spectre qu'il y a. Pour moi, c'est pas le spectre qu'il y a dans Hamlet. C'est pas mon père. J'en ai eu un. J'ai pas besoin de lui. Mais si vous voulez, pour dire pour dire les choses de manière un peu archaïque et tribale, il fait partie de ma vie, quoi.
Est-ce que vous voudriez pas quand même nous faire une toute petite lecture, s'il vous plaît ?
Je vous lis en français, ça vous évoquera peut-être Antonin Artaud. Avec les crocs des épidémies, je démonterai le vieil édifice des peuples. Avec l'encre des maladies, je corrigerai le manuscrit, la feuille humaine du manuscrit. Avec les grappins des pestes après l'incendie, je choisirai les poutres et les pilotis des peuples pour la nouvelle charpente d'une nouvelle isba. Avec la scie fine de la phtisie, je façonnerai un nouveau bâtiment. Je scierai un nouveau peuple avec la scie grossière du typhus. J'arracherai les clous des murs pour que se délite le je. Le grand je qui tantôt prend pour bague ce soleil vôtre, tantôt regarde à travers le verre des larmes d'un petit chien. En russe. Баграми моров буду разбирать старые строения народов. Чернилами хворей буду исправлять черновик, человеческий листок рукописи. Крючами чум после пожара буду выбирать бревна и сваи народов для нового сруба новой избы. Тонкой пилой чахотки буду вытачивать новое здание, выпилю новый народ, грубые пилы из сыпняка. Выдерну гвозди из тень, чтобы рассыпалась я, великой я, то надевающий перстнем ваше это солнце, то смотрящие через стекло слез собачонки. Alors, le dernier, c'est un poème qui est dédié à Nikolaï Goumiliev. Donc, Lemnikov a appris l'assassinat d'État le 1er septembre 1921 par la presse. Le complot était fabriqué. Ça s'appelle en français « Histrion solitaire ». Et pendant que sur la ville des tsars coulaient le chant et les larmes d'Akhmatova, moi, dévidant les chevaux de la magicienne, comme un cadavre somnolent, je me traînais dans le désert où l'impossibilité agonisait. Histrion fatigué, fonçant, tête baissée. Et pendant ce temps, le front frisé du taureau souterrain dans des cavernes sombres mâchait et mangeait dans le sang les hommes, dans la fumée de menaces indécentes. Et enveloppé par le vouloir libre de la lune, comme un qui erre le soir dans un manteau de sommeil, en rêve, je sautais au-dessus des abîmes et avançais de rocher en rocher. Aveugle, j'avançais jusqu'à ce que le vent de la liberté me fasse bouger et me frappe de sa pluie oblique. Et j'ai enlevé la tête de taureau des chairs et de l'os puissant et je l'ai posée près du mur. Comme le guerrier de la vérité, je l'ai secoué au-dessus du monde. Regardez, la voilà. Voilà le front frisé pour lequel avant les foules brûlaient. Et avec horreur, j'ai compris que j'étais invisible à quiconque, qu'il fallait semer des yeux, que le semeur Dieu devait venir.
Merci.
Je vous en prie.
Yvan Mignot, est-ce qu'on sait comment on lisait Klebnikov ?
Non, je sais pas.
Parfois, il commençait à lire le poème et puis il s'interrompait en disant, comme si c'était au lecteur d'aller continuer tout seul.
Il y a un poète qui lit, mais parce que c'est un tribun, c'est Maïakovski.
Ah, c'est
alors lui, il y va.
C'est le contraire. Là, c'est...
Lui, il est très... Il n'est pas très bavard, bien sûr. Il peut parler la nuit avec, discuter de, éclaircir certains passages. Par exemple, il dit que les soleils des églantiers dans ce poème, ça, c'est fondamental parce que c'est la pulsion des univers.
Dans le numéro d'Europe auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, il y a, j'irais, une anecdote qui est très parlante à cet égard. C'est l'un de ses amis qui témoigne, je ne sais plus lequel. Ils passaient un long moment ensemble, dans une pièce. Et puis un moment, comme le silence s'est installé déjà depuis un certain temps, cet ami se lève pour sortir. Et Khlebnikov lui dit, mais ne partez pas, la conversation continue. C'est-à-dire, c'est comme si le silence faisait partie intégrante pour lui de la parole.
un dernier mot. Ça existe dans des pratiques extrêmes orientales. Ça s'appelle Ichin Denshin. De mon cœur à ton cœur en japonais. C'est-à-dire, c'est le dialogue silencieux. Mais ça parle.
Au bois, corps anglais, violon à ressort et puissance mécanique des machines, un extrait de Fonderie d'acier, opus 19, tiré du ballet L'acier d'Alexandre Mossolov, dirigé là par Ricardo Chailly en 94, mais composé en 1926. Klebnikov est mort 4 ans plus tôt. Le poète Nikolaï Zabolotsky, lui, a 23 ans. Il commence tout juste à écrire et c'est à lui que vous consacrez une anthologie traduite par vos soins, Jean-Baptiste Parra, sous le titre du Loup toqué. Aux éditions La Rumeur Libre, Zabolotsky, poète soviétique, dites-vous, plutôt que poète russe.
Les deux.
C'est les deux. C'est la raison pour laquelle vous vouliez faire entendre ce ballet, ou un extrait de ce ballet.
Oui, je pensais que c'était quelque chose qui avait été composé à un moment un peu charnière. Donc, comme vous l'avez dit, Khlebnikov ayant quitté ce monde, et Zabolotsky, dans sa jeunesse, dans son commencement... Et Zabolotsky ayant toujours tenu en très haute estime et affection l'œuvre de Khlebnikov. Il ne l'a pas connu, mais il a connu ses écrits. Et il a été notamment l'un des plus proches amis de Zabolotsky, fut Stepanov, qui a été l'éditeur, le responsable de la première édition en 4 volumes des œuvres de Khlebnikov à la fin des années 20. À laquelle se réfère d'ailleurs Yvan Mignot pour ses traductions.
Qu'est-ce qu'il y trouve chez Khlebnikov ? Parce qu'il est grand lecteur, mais enfin particulièrement grand lecteur, mais grand lecteur aussi et beaucoup de poètes russes des 18 et 19e siècles, un peu moins des poètes contemporains. Qu'est-ce qu'il trouve chez Khlebnikov, Zabolotsky ?
Zabolotsky s'est attaché à un certain nombre de poètes, y compris du 19e, chez qui, dans la poésie, il y a aussi une forme de pensée. Et je pense que, on n'y a peut-être pas suffisamment insisté, mais c'est quand même apparu à travers ce qu'on a dit de Khlebnikov. Il est également évident que son invention verbale est liée aussi à une préoccupation de pensée. Et je dirais que c'est un peu une famille d'esprit comme cela. En plus, je pense que Zabolotsky, à ses débuts, fait partie de cette dernière saison, ce qu'on appelait la dernière saison de l'avant-garde russe, mettons ça entre guillemets. Mais en tout cas, voilà, du groupe de l'Oberiou, avec Daniil Arn, Zdenski...
Qui est l'association pour l'art réel.
Voilà, hein. Et quelques autres. Et ça, c'est une première phase de sa création.
Qu'est-ce qu'il s'agissait de défendre, d'ailleurs, avec je pense, par exemple, vous la citez, hein, à une soirée, le 24 juin 1928, hein, qui est une lecture-spectacle à Leningrad. Il y a donc Zdenski, qui arrive en circulant sur un tricycle, Arms, qui déclamait debout sur une armoire, et puis Zabolotsky, qui faisait son entrée dans une malle en capote de l'armée rouge. Et la soirée s'appelait 3 heures de gauche. Qu'est-ce qu'une telle mise en scène, justement, disait d'eux, et poétiquement, et politiquement ?
Je dirais qu'il y a peut-être, justement, là, d'associer la poésie avec une présence physique, des effets de surprise. Je dirais qu'en plus, ce local était décoré par un peintre extraordinaire qui était Pavel Filonov. Donc, il y a quand même l'idée de faire exploser quelque chose, des conventions, voilà, pour le moins, dans cette saison-là. Il y a une forme d'humour qui peut s'en dégager, plus ou moins, et différemment selon les auteurs de l'Auberiou. Il y a un côté qu'on pourrait juger, entre guillemets, un peu absurdiste, mais qui, en fait, se révèle extrêmement tonique. Il y a une drôlerie. Il y a aussi un côté tout à fait, il peut y avoir une dimension tout à fait tragique, hein, par en dessous. Bon, en tout cas, cette saison-là ne dure pas très très longtemps. Zabolotsky ensuite va cheminer à titre personnel vers ses horizons plus singuliers à lui. Et il y aura toujours une dimension, une préoccupation chez lui philosophique évidente sur la question aussi, sur les grandes questions, la question de la mort, qu'est-ce qu'on devient après la mort, et ainsi de suite. Il sera en lien avec des scientifiques, notamment avec Tsiolkovsky, qui est le père de l'astronautique, enfin l'inventeur de la fusée, de la conquête spatiale. Voilà un peu sa situation au départ.
Alors, il écrit bien plus tard un texte qui s'appelle « Pensée, image, musique » en 1957. Et il y écrit « Les mots doivent s'embraser et se caresser les uns les autres, former des guirlandes vivantes et des rondes. Ils doivent chanter, sonner et pleurer. Ils doivent s'entrappeler l'un l'autre comme des amoureux dans les forêts, s'adresser des clins d'œil, s'offrir des signes secrets, se fixer des rendez-vous et des duels. Le poète travaille toute la substance simultanément, par la raison, le cœur, l'âme, les muscles. Il travaille tout l'organisme et plus il y aura de cohésion dans son travail, plus sa qualité sera haute. Pour que triomphe la pensée, il la réalise à travers l'image. Pour que la langue travaille, il en tire toute la puissance musicale. Pensée, image, musique. Telle est la triplicité idéale à laquelle aspire le poète. » On est assez loin de Khlebnikov.
Oui, bien sûr, on est assez loin, mais... Comment dire, c'est pas un épigone, c'est pas un imitateur. Il y a d'une part une évolution interne à Zabolotsky qui doit tenir compte aussi de ce qu'il a vécu historiquement, parce que son œuvre est largement tributaire des aléas de l'histoire de l'Union soviétique, en particulier au moment de la Grande Terreur où il est déporté.
En 38.
Voilà, en 38, et au moment, pendant sa déportation, il écrit quasiment rien. Il recommence, une fois qu'il est libéré, réintégré dans l'Union des écrivains. Mais en même temps, il a toujours été fidèle à Khlebnikov, c'est-à-dire à la pensée, à la présence même de Khlebnikov qui apparaît dans plusieurs de ses poèmes, y compris les Tables du Destin dont on a parlé tout à l'heure. Il en fait mention. Il tient le plus grand compte de ça. Mais évidemment, il n'est pas dans une sorte de continuation épigonale. C'est autre chose. Et puis, je dirais que le moment historique est totalement différent. Ça tient à la fois à ce génie absolu qui était Khlebnikov, et ça se reproduit pas comme ça en série. Et puis d'autre part, je pense qu'il y a aussi le moment historique qui fait que il y a des tas de paramètres qui conditionnent un peu la création aussi. Hein.
Alors l'anthologie que vous présentez et traduisez, Jean-Baptiste Parra, rend compte donc de ses premiers poèmes autour de 1926, ceux de l'Auberiou, les poèmes par trop utopistes, enfin en tout cas quelques-uns qu'on a qualifiés d'utopistes dans les années 30, puis l'arrestation au travers d'un texte assez extraordinaire d'ailleurs, paru en 56, à peu près au moment enfin écrit en 56 au moment du dégel, et puis le silence des années de déportation, le retour. À ce moment-là, le poète est réhabilité. Ça prend un petit peu de temps, mais il l'est quand même. Donc il retrouve sa place plus ou moins, mais sa voix change et sa voix, ça devient ça, par exemple.
В этой роще березовой, вдалеке от страданий и бед, где колеблется розовый, не мигающий утренний свет, где прозрачной лавиною льются листья с высоких ветвей. Спой мне, Иволга, песню пустынную, песню жизни. жизни моей.
Un extrait du film Attendons jusqu'à lundi, ou alors Nous survivrons jusqu'à lundi, hein, ça dépend de si on prend la traduction française ou pas, de Stanislas Rostotsky. On est en 1968, et ce qu'on entend, c'est un poème de Zablotsky de 46 dans ce bosquet de bouleaux que vous traduisez dans l'anthologie, Jean-Baptiste Parra. Ça manque de vodka, nous disait Yvan Mignot pendant qu'on entendait cette chanson. Est-ce que vous voulez bien nous en lire la traduction française?
Oui, donc il faut 46, c'est-à-dire pour lui, c'est d'une part après l'épreuve de la déportation en Extrême-Orient sibérien. Après que pendant ces années-là, sa femme et ses enfants aient subi le terrible siège de Leningrad et été évacués à un moment parce qu'on appelait la route de la vie, c'est-à-dire sur le grand lac gelé. Et puis c'est aussi après Hiroshima, Nagasaki. Donc il y a tout ça et il écrit ce poème. Dans ce bosquet de bouleaux, loin de la souffrance et du malheur, là où tremble rose la clarté du matin, où le feuillage en cascade claire ruisselle des hautes branches, chante pour moi, l'oriot, ce refrain des airs, la chanson de ma vie. Volant au-dessus de la clairière, tu as vu des hommes depuis les hauteurs, et dans la fraîcheur de l'aurore, tu as choisi une imperceptible flûte en bois pour visiter ma demeure et accueillir chastement mon jour de ton humble mélodie matinale. Mais nous autres, nous sommes des soldats, et aux confins de la raison, les atomes trépides, soulevant les maisons dans leurs orages blancs, comme des moulins fous, les ailes de la guerre tournoient. Mon ami, pourquoi ce brusque silence? Où es-tu, l'oriot, ermite du bois? Encerclé d'explosions sur le fleuve où noircit le jonc, tu passes au-dessus des ravins et des ruines de la mort. Pèlerin silencieux, tu m'accompagnes au combat. Mais un nuage létal s'étend au-dessus de toi. Derrière les grands fleuves se lèvera le soleil, et dans la brume du matin, les paupières brûlées, sans vie, je me blottirai contre la terre. Un dernier craillement de corbeaux forcenés, et les mitrailleuses vibrantes se tairont. Alors, dans mon cœur rompu, ta voix chantera. Et sur le bosquet de bouleaux, sur ma boulet, ou en rose avalanche, les feuilles ruissellent des branches, ou un lambeau de fleurs froidit sous une larme divine, le matin de la victoire solennelle pour des siècles se lèvera.
Merci beaucoup. Poète absolument merveilleux, disait de lui Brodsky. Le premier poète de notre temps, disait Tinianov. La dernière édition de ses œuvres époque soviétique aurait été imprimée à 1 million d'exemplaires, dites-vous, et ici, rien, ou presque. Quelques poèmes par-ci, par-là, hein, glissés dans des anthologies. Alors, au-delà de notre grand retard en matière de traduction, qu'on commence à rattraper tout doucement, qu'est-ce qu'un tel silence pourrait dire de la construction française de la poésie russe de ces années-là? Qu'est-ce qui lui manquait pour
Je pense qu'il m'en mignon, on serait d'accord, il y a énormément de lacunes à combler. C'est-à-dire que...
Donc l'histoire est fausse, à réécrire en tout cas la nôtre.
À réécrire, c'est pas qu'elle est fausse, c'est qu'elle est partielle. Par exemple, je crois que sont bien installés dans notre paysage des gens comme Akhmatova, comme Tsvetaeva, comme Mandelstam, certainement depuis longtemps, traduit, retraduit, et ainsi de suite. Klemnikov a été traduit, mais je pense que il n'occupe pas, dans l'espace mental en France, la place qu'il mérite réellement, parce que c'est vraiment un géant. Et je crois que la traduction que propose aujourd'hui Yvan Mignot peut être tout à fait décisive pour réaliser qu'on a affaire à quelqu'un d'immense. Zablotsky, c'est pas tout à fait la même catégorie, si vous voulez. C'est un excellent poète. Et qui, comme un certain nombre d'autres poètes de cette génération ou de générations ultérieures, mérite d'être traduit, tout simplement, pour ne pas en rester à ressasser indéfiniment les mêmes noms. Et pour se rendre compte aussi de qu'est-ce que ça pouvait dire d'être un poète en Russie dans ces années-là, dans toute les aspects tragiques, mais aussi les aspects complexes, les relations aussi entre eux. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'il partait depuis cette amitié avec les Oberiou, mais qu'après, parmi ses amis, il y a d'excellents écrivains dont certains ont été traduits, comme l'auteur de théâtre absolument merveilleux, à mon avis, qui est Evgeny Schwartz. mais qui sont pas des gens très célèbres chez nous, alors qu'ils mériteraient d'être bien mieux connus. Donc voilà, mon petit travail, modestement, ça a été d'essayer d'introduire quelqu'un de nouveau et d'assez original, parce que je pense que ce qu'il a fait à différents moments de sa vie n'a absolument aucun équivalent dans la poésie française, par exemple.
Yvan Mignot, Jean-Baptiste Parra, merci à tous les deux. C'est presque la fin de cette émission, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors, bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
En ce qui concerne justement les grandes figures connues en France, à savoir Martova Tsvetaeva, Mandelstam, je crois qu'on a fait le tour, Mayakovsky aussi. Alors, moi, je suis un peu embêté parce que je suis pas... C'est pour ça que j'évite, très souvent, j'évite de lire les traductions françaises. Par exemple, je prends Mandelstam. Moi, les traductions qui existent de Mandelstam ne me satisfont absolument pas. Bon, mais c'est le point de vue de quelqu'un qui le lit en russe. Et je pense qu'il n'existe pas vraiment en français. Je ne m'en désole pas, parce que je pense à Méchonic. Il a fallu attendre Méchonic pour avoir, malheureusement, il n'a pas pu terminer ses traductions, mais pour avoir une vraie traduction de l'Ancien, ce qu'on appelle l'Ancien Testament en français, c'est-à-dire un poème avec des blancs, avec un rythme, avec... voilà. Moi, personnellement, je suis pour refaire des traductions, et pas seulement choisir dans une anthologie, souvent on est tenté de choisir les meilleurs poèmes. Moi je suis pour tous les poèmes, même ceux qui peuvent paraître comme ça pas très bons. Hein. Comme ça, ça donne une image quand même plus nuancée de la personne. Et à ce moment-là, on s'apercevra que, évidemment, les grands, ceux qu'on appelle les grands, ils font de très belles choses, mais ils ont aussi des ratés. Et les ratés sont aussi importants parce que c'est ce qu'ils ont fait. Donc ça donne une image plus vraie. Alors, bien sûr, il faut souligner qu'il y a des lacunes considérables parce qu'il y a simplement des noms qui, à part chez les russisants ou ceux qui s'intéressent et qui parlent un peu la langue, à la poésie russe, ils les connaissent. Par exemple, il y a un poète que moi je trouve très très fort, qui s'appelle Pavel Vassiliev, qui a péri en 38, si je ne me trompe. Et il est vraiment très très bien. Il a un poème qui s'appelle « La révolte du sel », qui est superbe pour l'époque. Et en plus, il a des poèmes très très sensuels qui n'ont été édités que post-mortem dans les années, je ne sais pas, 80-90, et au Kazakhstan. Donc il y a des personnes comme ça.
Donc traducteur au travail.
Et ainsi de suite, c'est vendredi prochain même heure. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Valérie Lavalard pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Merci à Yvan Mignot, Jean-Baptiste Parra. Vous trouverez toutes les actualités de nos invités sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction. Mais d'ici là, c'est l'heure de la méthode scientifique de Nicolas Martin.